franceinter.fr.
Aujourd'hui dans Affaires sensibles, Hugo Chavez et la révolution bolivarienne. Vous l'aurez sans doute remarqué, voilà plusieurs semaines que le Venezuela fait la une de l'actualité internationale. Il se trouve que ce pays d'Amérique latine traverse une période de contestation sociale hors norme. Jour après jour, à Caracas et dans les grandes villes, le mouvement d'opposition se durcit, les affrontements entre policiers et manifestants se multiplient, la tension reste permanente. Malgré les critiques de ses voisins latino-américains et de la communauté internationale, le président vénézuélien Nicolas Maduro continue son numéro d'équilibriste et s'accroche coûte que coûte au pouvoir, pouvoir laissé vacant 4 ans plus tôt par un certain Hugo Chavez. Dirigeant aux aspirations populistes pour les uns, sauveur à la volonté populaire pour les autres, la personnalité et les idées de Chavez suscitent toujours un vif débat parmi les intellectuels du monde entier. Et bien souvent, ce débat engendre avec lui dans la presse ou sur les plateaux télé des raccourcis historiques ou de coupables amalgames. Tantôt, Hugo Chavez est l'homme qui voulait redistribuer la richesse nationale à son peuple. Tantôt, l'ancien président vénézuélien est un personnage qui aurait en réalité privé les Vénézuéliens de leurs droits. C'est pour cette raison et pour tordre le cou aux idées reçues qu'Affaires Sensibles vous propose aujourd'hui de vous plonger dans le Venezuela des années Chavez, sachant que dans cette affaire, évidemment, le pétrole joue un rôle prépondérant. Après le récit, nous recevrons l'historien Franck Godichaud, président de l'association France-Amérique latine. Il a beaucoup travaillé sur la question des mouvements révolutionnaires sur ce continent. Son dernier livre, coécrit avec Antoine Faure et intitulé « Chili actuel, gouverner et résister dans une société néolibérale » est paru au mois de janvier dernier aux éditions L'Harmattan. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Adrien Cara avec le soutien des documentalistes de Radio France, attaché de production Valérie Priolet, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice Slègle, programmation Muriel Pérez, programmation musicale, à la technique aujourd'hui Loïc Frapsos.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Pendant des siècles, cette région était un monde perdu au sein de montagnes infranchissables, sillonnées par des torrents alimentant un fleuve immense. C'était une jungle où l'homme ne pouvait pénétrer. Situé sur la côte nord du continent sud-américain, le Venezuela est formé par le bassin de l'Orénoque. Pendant 300 ans, le Venezuela fit partie de l'Empire espagnol. Vers 1820, les républiques sud-américaines gagnèrent leur lutte pour l'indépendance. L'un des grands instigateurs de ce mouvement était un Vénézuélien, Simon Bolivar. Le Venezuela est un pays agricole. Mais au XXe siècle, la découverte de gisements pétrolifères lui ouvrirent de nombreux horizons économiques.
Au début des années 60, à la télé nous parviennent les images d'un pays en pleine métamorphose. Ce territoire à la végétation luxuriante, au paysage de carte postale et dont la superficie équivaut à 2 fois celle de la France, c'est donc le Venezuela. Idéalement placé sur les routes des comptoirs, au carrefour du monde andin et caribéen, le Venezuela fut pendant longtemps une étape importante dans la traversée de l'Atlantique par les navires de commerce. Mais aujourd'hui, s'il intrigue les médias européens autant qu'il fascine les entrepreneurs du monde entier, c'est pour une autre raison. Le Venezuela regorge en effet de fer, d'acier et de pétrole. Bingo ! Et les chiffres des experts donnent tournis. Les 7 millions de Vénézuéliens seraient assis depuis des siècles sur de gigantesques réserves d'or noir qu'on estime alors équivalente à celle d'un pays comme l'Irak. Ainsi, en l'espace d'une décennie, le Venezuela devient l'un des pays les plus industrialisés du continent, avec à la clé croissance économique, croissance démographique et urbanisation galopante. Et Caracas, la capitale, se transforme en point de chute privilégié pour les grandes compagnies pétrolières étrangères. Il se trouve en effet que ce pétrole qui coule abondamment dans les veines du pays n'appartient pas au Venezuela, non. Il est entre les mains de plusieurs grandes familles et de groupes étrangers qui l'exploitent comme bon leur semble. Au tournant de la décennie 70, à une période où un nombre croissant de dictatures gangrène le continent sud-américain, la rente du pétrole permet au Venezuela de tirer son épingle du jeu. Et elle permet au pays de Simon Bolivar d'afficher des niveaux de revenus, de santé et d'éducation parmi les plus élevés des pays en voie de développement. À tel point que le secrétaire d'État américain, Henry Kissinger, ira même jusqu'à vanter, je le cite, le modèle démocratique et la responsabilité salutaire des dirigeants de Caracas. Ceux-là même qui laissent les mains libres aux géants américains des forages, ça s'appelle la reconnaissance du ventre. Autre facteur qui explique cette apparente stabilité politique au Venezuela, l'alternance. Au Parlement, à Caracas, les deux forces politiques majeures du pays, l'Action démocratique et la COPEI, le Comité d'organisation politique électorale indépendant, se partagent le pouvoir et les responsabilités au sein d'une coalition de bon aloi. Fort de ce consensus politique, le Venezuela, État fondateur de l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, fait alors figure de bon élève de la classe. Tout va pour le mieux. Les perspectives sont excellentes. Face à cette richesse nationale que constitue le pétrole, le gouvernement de Caracas, avant Chavez, décide de nationaliser l'exploitation sur tout le territoire. Au même moment, sur les marchés, les cours du brut s'emballent, le prix du baril flambe, la spéculation va bon train. Qui peut alors imaginer que l'or noir sera comme un cadeau empoisonné? Qui peut alors se douter que s'écrivent ici les premières lignes d'un chaos?
Depuis le 26 décembre dernier, plus une goutte de pétrole n'a quitté l'Iran et on est passé brusquement d'une situation où l'or noir était surabondant, au point que les producteurs consentaient des ristournes, à une situation où il manque à peu près 3% à la production mondiale pour satisfaire la demande. Conclusion, tout le monde cherche à faire des stocks supplémentaires et les prix montent de façon spectaculaire sur le marché libre. Certaines grandes compagnies ont déjà annoncé qu'elles allaient réduire leurs livraisons. C'est le cas de la British Petroleum, qui s'approvisionnait surtout en Iran, et qui va réduire de 45% ses expéditions d'ici la fin du trimestre. Plusieurs pays comme la France, la Belgique ont déjà pris des mesures pour empêcher l'exportation de produits pétroliers que certains sont prêts à acheter à n'importe quel prix.
Au mois de mars 1979, le deuxième choc pétrolier frappe le monde. Après le premier épisode de 1973, au moment de la guerre de Kippour, c'est cette fois l'instabilité politique en Iran, provoquée par le renversement du Shah, qui engendre une hausse importante du prix du brut. Conséquence sur le court terme, les pays exportateurs gagnent plus. Oui, mais sur le long terme, le scénario se révèle dramatique. En effet, la très forte augmentation du prix du baril entraîne un ralentissement de la demande, ce qui engendre une chute considérable des revenus pétroliers. À vendre trop cher, eh bien, on ne vend plus. Au Venezuela, le phénomène est d'autant plus important que le pétrole constitue plus des deux tiers des recettes. Alors, très vite, ce qui devait arriver arrive, le pays sombre dans la crise économique. On décide en urgence de reprivatiser les entreprises étrangères. On met en place des mesures strictes sur l'encadrement des prix à la consommation. On baisse les salaires. Mais rien n'y fait. Les mois, puis les années passent, et la situation du pays au cours de la décennie 80 se rapproche d'un seuil critique. Au même moment, les principales villes sont le théâtre de grandes manifestations qui tournent parfois à l'émeute. Les Vénézuéliens dénoncent les dérives libérales de leur classe politique. Ils accusent notamment leurs responsables de s'enrichir et de se livrer à toutes sortes de malversations. Sur place, l'ambiance est électrique, la tension palpable.
Avanzan por la carretera panamericana norte hacia la capital 10 vehículos de transportes de tropa del regimiento de infantería de la ciudad de San Felipe. La población civil.
Le 4 février 1992, les rues de Caracas se transforment en chantier. Sans crier gare, au petit matin, en effet, un groupe de bataillons parachutistes fait une entrée fracassante dans la capitale. Fusils à la main et grenades en bandoulière, ils font parler la poudre et foncent vers le palais de Miraflores, là où siège le président de la République. Sur France Inter, le journaliste Luc Lemonnier fait le point.
Ce qui est sûr, c'est que des coups de feu et des tirs de canon ont été entendus à Caracas tôt ce matin, que des blindés légers de transport de troupes ont été déployés autour du palais présidentiel et que le directeur de l'information de la télévision d'État a indiqué que la chaîne était tombée aux mains des rebelles au prix de plusieurs morts. J'ai pu contacter il y a quelques minutes une Française qui participe à un congrès de médecine à Caracas. Voilà ce qu'elle a vu et entendu à la télévision.
Il y a un militaire qui parle, qui dit qu'ils en ont marre de leur président, qui ne comprend pas la douleur du pays. À l'hôtel, on m'a dit que, bon, effectivement, il y avait eu un coup d'État. J'ai une vue sur une grande avenue, il n'y a rien. La seule chose, c'est que c'est vrai que je me suis réveillée avant que vous m'appeliez parce que j'entendais passer des avions très bas. D'habitude, il n'y a pas d'avions ici. Enfin, on ne les entend pas, quoi. Et là, ça faisait comme des avions à réaction qui passaient très bas.
Si le coup d'État du 4 février 1992 se solde par un cuisant échec politique, l'histoire retient qu'il fut à l'inverse un profond succès médiatique. Car ce jour-là, un jeune lieutenant-colonel de l'armée se fait le chantre et le visage des putschistes à la télé. Il a 38 ans, le cheveu court, un béret rouge sur la tête, un treillis militaire sur le dos et le visage carré. Son nom, Hugo Chavez. Ensuite, les années passent. Le Venezuela s'enfonce dans un puits sans fond. En 1994, une crise bancaire ébranle un peu plus le pays. L'économie tourne toujours au ralenti. De son côté, la classe politique donne le sentiment d'être à bout de souffle. Elle est à la fois incapable de proposer des réformes et de tenir ses promesses électorales. Lassée de la corruption, la population réclame un profond changement. Et c'est là qu'intervient Hugo Chavez, l'homme du putsch manqué de 92 et qui fut un temps emprisonné avant d'être gracié. L'ancien militaire prend la tête d'une formation politique inédite, le Pôle Patriotique, conglomérat d'une dizaine de partis de gauche. En vue des élections de 1998, il entame alors une vaste campagne populaire. Partout dans le pays, son discours en faveur d'une refonte du système démocratique et surtout une répartition plus équitable des richesses suscite un vif soutien de la population. Le peuple applaudit Chavez, le peuple aime Chavez et bientôt le peuple va faire le choix Chavez. Ainsi, le 6 décembre 1998, à l'issue de l'élection présidentielle, un nouveau président s'installe au palais des Miraflores, Hugo Chavez, bien sûr. Avec 56,5% des voix, les Vénézuéliens l'ont choisi pour assurer et symboliser l'avenir du pays pour les 4 prochaines années. Et si sa nomination provoque une onde de choc parmi la classe dirigeante, c'est en grande partie parce que c'est la première fois depuis un demi-siècle que le chef de l'État n'est pas issu des rangs de l'un des deux grands partis de coalition, la COPEI et la D. Non, Chavez est le candidat du peuple, celui des laissés-pour-compte, des pauvres et de tous ceux qui veulent en finir avec la misère dans le pays. À l'annonce de son élection, l'espoir est immense, tout comme l'est la crainte des grandes familles bourgeoises, de la vieille oligarchie politique et du patronat de voir leurs privilèges abolis. Dès sa prise de fonction, en février 1999, l'ancien lieutenant-colonel Chavez donne le ton. Il entend refonder la République et en faire une démocratie populaire et participative. Raison pour laquelle il convoque dans la foulée une assemblée constituante, comprenant une institution collégiale qui va avoir pour tâche de réécrire la Constitution. Quelques jours plus tard, sous la chaleur écrasante de Caracas, le président Chavez monte à la tribune. Il salue des milliers de militants, tous vêtus de rouge et qui portent casquettes de baseball sur la tête. L'opposition crie un spectacle de démagogie. Chavez, lui, appelle le peuple à choisir son destin.
Bonsoir. Bonsoir à tous.
El ciudadano, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, comandante Hugo Chávez Frías.
Tout d'abord, au nom de notre peuple, au nom du gouvernement bolivarien, soyez toutes et tous les bienvenus dans ce pays, dans cette patrie. Les États-Unis d'Amérique semblent être destinés à infester le continent américain de misère, au nom de leur soi-disant liberté. C'est ce que disait déjà Simon Bolivar en 1820.
Vu d'Europe, le verbe, la fougue d'Hugo Chavez suscite beaucoup de questions dans l'opinion. Qui est donc cet homme qui prétend redonner le pouvoir à son peuple, s'interrogent les journalistes du quotidien Le Monde. Quel sera le visage du Venezuela de demain, écrivent à leur tour les éditorialistes de Libération. Remonter le parcours d'Hugo Chavez et se plonger dans un récit surprenant à plus d'un titre. Oui, un récit, une histoire, concept devenu prégnant en politique. Né en juillet 1954 dans une famille d'enseignants dans le nord-ouest du pays, Hugo Rafael Chavez Frias, de son vrai nom, possède la particularité d'être Zambo, autrement dit, métis de racine noire et indienne. Bref, il ne fait pas partie de la caste blanche et de la bourgeoisie de Caracas. À l'école, le jeune Hugo suit une scolarité sans un croche, mais sans briller. À l'âge de 17 ans, il devient cadet à l'académie militaire. une institution qu'il intègre non pas grâce à ses résultats en classe, mais grâce à ses dons de joueur de baseball, mais oui. Ensuite, il poursuit avec une maîtrise de Sciences Po à l'université de Caracas. Il vit en direct l'effondrement de la société vénézuélienne au début des années 80, provoqué par le second choc pétrolier. Cet épisode provoque chez lui et chez quelques autres une prise de conscience. Face à la crise financière et sociale, ils en sont persuadés, il faut renouveler l'offre politique. Alors, dans le secret, avec quelques camarades, ils fondent une cellule militaire clandestine, le Mouvement Bolivarien. Mouvement qui veut fédérer la population pour changer le cours de l'histoire au Venezuela. En 1992, Hugo Chavez accède à la popularité, on l'a vu lors du spectaculaire coup d'État manqué de Caracas. Dans les années qui suivent, il met à profit son image désormais connue par une grande partie des Vénézuéliens pour poursuivre la lutte et il appelle à la création d'une 5e République. Il joue de son charisme et invente de nouvelles formes de communication politique fondées sur des interactions directes et des médiations réduites. Et très vite, il incarne pour beaucoup l'espoir d'un changement qui se concrétise avec sa victoire à la présidentielle de 1998. Au micro de Daniel Mermet, le journaliste et universitaire français Bernard Cassin décrypte le discours et le personnage de Chavez.
Moi, ce qui me frappe, c'est que c'est une personne cultivée, modeste, qui écoute, qui demande des avis, qui connaît ses limites, qui a une vision stratégique de l'Amérique latine. Il n'inscrit pas la révolution bolivarienne dans le seul cadre du Venezuela, mais il a une vision de l'Amérique latine, donc il voit large, en quelque sorte. Alors, sur le plan humain, le charisme de Chavez, qui est indéniable, vous aurez aussi remarqué qu'il ne le canalise pas vers sa personne. Il le canalise vers la Constitution. Il a toujours, d'ailleurs, une Constitution dans sa poche, comme beaucoup de Vénézuéliens. Et il dit, voilà, vos droits sont là, dans ce texte. Vous êtes des citoyens, vous avez des droits.
Quelques mois plus tard, en juillet 99, Hugo Chavez et ses partisans obtiennent une victoire écrasante lors des législatives. La révolution chaviste démarre. Le président voit ses pouvoirs renforcés, son mandat allongé. Le pays change de nom. Sur les cartes du monde apparaît alors la République bolivarienne du Venezuela. Pour la première fois en Amérique du Sud, les populations indigènes obtiennent des droits. Par la suite, lors d'un grand référendum, plus de 70% des Vénézuéliens se prononcent en faveur de ces changements. Preuve que Chavez jouit alors d'un soutien massif pour mener à bien ses réformes. Ce soutien est d'autant plus important qu'il prend en main un pays au bord de la banqueroute. À Caracas, en effet, les caisses sont vides. Le chômage atteint des proportions endémiques. Rien que pour l'année 1999, la récession atteint les 7%. La faute à un pétrole toujours trop cher sur les marchés internationaux. Un pétrole qui ne se vend pas et qui reste dans les cuves et les camions-citernes. Autre élément qui joue d'emblée contre Hugo Chavez, le refus du secteur patronal de coopérer avec le gouvernement sur certains projets. Pour de nombreux historiens, ici s'écrivent les premières lignes d'un affrontement idéologique entre les patrons et le pouvoir. Affrontements qui seront par la suite à l'origine d'un passage en force des chavistes pour appliquer leur politique. Alors que les nuages s'accumulent autour du palais de Miraflores, le président Hugo Chavez, lui, fait la promotion de sa révolution bolivarienne à la télé. À raison de près de 40 heures par semaine, dans un exercice médiatique au format inédit, il répond aux appels et aux questions des Vénézuéliens en direct sur l'une des principales chaînes de télévision. Cette émission, qui va devenir un rituel national, est intitulée « Allô, Presidente ».
RNB, la radio de la información, presenta... Aló Presidente, el programa del presidente Hugo Chávez Frías, en vivo. Aló Presidente, una transmisión en directo del presidente con su pueblo.
Le drapeau, les enfants, la patrie et Libertador, Simón Bolívar, Hugo Chavez puise dans les valeurs traditionnelles du peuple vénézuélien pour nourrir ses réponses. De son côté, l'opposition politique hurle à la personnification du régime à outrance et tire à boulet rouge sur ce président aussi omniprésent qu'omnipotent. Parmi la bourgeoisie et l'establishment pétrolier, tous veulent déstabiliser Chavez, mais rien n'y fait. Au mois de juillet 2000, les premières élections générales sous le régime de la nouvelle constitution instituée par le nouveau président tournent encore largement à son avantage. Et le résultat est sans appel, plus de 59% des voix. Ainsi, à la fin de l'année 2000, après 2 ans au pouvoir, la démocratie participative tant prônée par Hugo Chavez est en place. La révolution bolivarienne, elle, est en marche. Le peuple vénézuélien, dans une large majorité, la soutient. Malgré la précarité économique, tous les feux sont au vert. Prochaine étape pour les partisans de Chavez, établir une nouvelle constituante économique pour redistribuer la richesse du pays à la population. Et pourtant, cet état de grâce vacille sans qu'on en s'en aperçoive, parce qu'en coulisses, un grand nombre d'acteurs militent pour mettre un terme à l'expérience révolutionnaire du président Chavez. Et on ne le sait pas encore, c'est le pétrole, encore lui, qui va avoir le dernier mot dans cette histoire.
Me llaman calle pisando baldosa, la revoltosa y tan perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día. Me llaman calle, hoy tan cansada, hoy tan vacía, como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me subo a tu coche, me llaman calle de mi alegría. Calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida. Me llaman calle y ese es mi orgullo, yo sé que un día llegará. Yo sé que un día vendrá mi suerte, un día me vendrá a buscar. A la salida un hombre bueno, pa' toda la vida y sin pagar. Mi corazón no es de alquilar, me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. Me llaman calle, la sin futuro. Me llaman calle, la sin salida. Me llaman calle, calle más calle. La que mujeres de la vida suben pa' abajo, bajan pa' arriba. Como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. Me llaman siempre y a cualquier hora. Me llaman guapa siempre a deshora. Me llaman puta también princesa. Me llaman calle es mi nobleza. Me llaman calle, calle sufrida, calle perdida de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar.
A la Puri, a la Carmen, Carolina, Viviana, Teresa, Casa, Mar.
Décembre 2001, le convoi présidentiel de Hugo Chavez file toute sirène hurlante dans les rues de Caracas. Depuis plusieurs semaines, rien ne va plus entre le chef de l'État vénézuélien et les milieux d'affaires du pays. L'état de grâce sur lequel vivaient les Chavistes depuis leur arrivée au pouvoir 3 ans plus tôt est désormais rompu. En cause, la promulgation d'une série de 49 lois décrets par le président. Parmi les mesures qui font débat, il y a notamment celle de la réforme agraire. Chavez menace de s'en prendre aux terres des grands propriétaires et des exploitations. La mesure soulève la colère d'une grande partie des familles de la bourgeoisie qui possède précisément la majorité des terrains agricoles. Autre point sensible, l'une des lois du dispositif impose un encadrement beaucoup plus strict des pratiques pétrolières. Le président Chavez entend renforcer le contrôle de l'État sur tout ce qui concerne l'or noir au Venezuela. La puissante organisation patronale Fedecamas affirme qu'il s'agit là d'un premier pas vers une nationalisation de tout le secteur. L'inquiétude gagne la population, plusieurs organisations syndicales appellent à la grève. À la fin du mois de décembre 2001, le Venezuela se retrouve paralysé de l'intérieur. Le mouvement social est suivi par les classes moyennes. Car l'espoir que le changement avait entretenu sur cette partie de la population tourne maintenant à la désillusion. d'autant que mois après mois, la situation économique et sociale se détériore. À cause des attentats du 11 septembre, quelques mois plus tôt, les cours du pétrole sont au plus bas. L'État n'arrive plus à faire rentrer l'argent dans les caisses. Les résultats de la politique chaviste, notamment en matière de santé, de lutte contre la corruption et de sécurité, s'en ressentent. Une partie des programmes n'est plus financée, d'autres sont tout bonnement abandonnés. Au micro de journalistes étrangers, les Vénézuéliens interrogés affichent un sentiment partagé sur la politique du président.
Il y a eu tellement de lois qu'on était forcé de râler. On ne pouvait pas critiquer chaque loi. Mais si on prend chaque loi par loi, il y a de nouveau les jolies choses. Ça, c'est la tragédie chez Chavez. Parce qu'il y a des jolies choses. La loi de la terre, par exemple, si on examine un peu la loi de la terre, c'est tout à fait staliniste. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas joli. Il veut redonner la terre aux travailleurs. Mais écoute, pourquoi pas la terre qui est déjà prise, pourquoi pas stimuler les gens, qu'ils travaillent plus, qu'ils produisent plus, avec quelques incentives, en fait. Au lieu de ça, ils te menacent. Si tu ne produis pas à la fin de cette année, je prends ta terre.
Quelques mois plus tard, au début du mois de février 2002, Hugo Chavez tente de reprendre l'initiative. Le président vénézuélien annonce un plan d'austérité de grande ampleur et une levée massive des impôts pour les sociétés. Et cette fois, ce sont les syndicats de patrons qui se mobilisent. À Caracas, la tension monte. La goutte d'eau qui va faire déborder le vase tombe quelques jours plus tard. Sans préavis, les dirigeants de la société pétrolière publique PDVSA sont renvoyés, remplacés dans la foulée par une nouvelle équipe proche du président Chavez. Le prétexte est alors idéal pour que la Fédération des patrons vénézuéliens accuse le président de népotisme. Et l'armée, qui était jusque-là restée à l'écart, entre en scène. Une partie d'entre elles entre en rébellion. Et le 11 avril, Chavez est renversé par un coup d'État. Présent sur place à Caracas, le correspondant de RFI, Pablo Ekel, raconte.
Le président Chavez a été contraint de signer sa démission au palais présidentiel de Miraflores. Le général en chef, Lucas Rincón, qui avait annoncé le soutien des forces armées au président dans l'après-midi d'hier, a annoncé lui-même, tard dans la nuit, que Chavez avait démissionné et a annoncé aussi la démission de tout le haut commandement militaire. Chavez est détenu au Fort Tuna, le siège le plus important des militaires à Caracas. Bien que dans les premières heures, le coup d'État a voulu cacher son nom, l'incertitude sur le plan institutionnel a poussé le patron des patrons, Pedro Carmona, à présider la junte provisoire de gouvernement aux côtés des militaires insurgés. Carmona a annoncé des élections le plus tôt possible.
Première décision du nouveau président, Pedro Carmona, mettre un terme à la révolution bolivarienne. En grande pompe, les télés privées annoncent déjà qu'Hugo Chavez pourrait même rester pendant plusieurs mois en prison. Mais le peuple vénézuélien, lui, ne l'entend pas de cette oreille. À l'annonce des coups d'État, plusieurs milliers de personnes descendent dans les rues pour manifester. Les militaires qui s'étaient rangés du côté de Carmona hésitent, puis renoncent. Le nouveau pouvoir se retrouve isolé. Conscient de la précarité de la situation, Pedro Carmona finit par renoncer. Et le 14 avril, trois jours seulement après avoir été renversé, Hugo Chavez fait un retour triomphal au palais présidentiel de Miraflores. Sur les ondes de la radio nationale, il prononce un grand discours et appelle les Vénézuéliens au calme. « Désormais, dit Chavez, nous devons nous réconcilier, car l'ennemi n'est pas à l'intérieur de notre pays. Non, il est à l'extérieur. » Vu la tournure des événements, ce coup d'État est finalement une aubaine pour Chavez et ses partisans. D'une part, cet événement constitue la preuve que beaucoup cherchaient depuis longtemps. Ils peuvent maintenant affirmer qu'à Caracas, certains tentaient d'entraver l'action du président. D'autre part, elle sert de prise de conscience pour une partie de la population qui n'était jusqu'alors pas forcément chaviste. C'est le cas par exemple de Mireia, une directrice d'école.
Je n'ai pas voté pour Chavez. J'étais indifférente au processus. Je ne rends pas un culte à sa personnalité. Mais après le 11 avril, après le coup d'État, quand j'ai vu ces gorilles revenir au pouvoir et faire tout ce qu'ils ont fait, les arrestations, les crimes que Chavez n'avait pas commis pendant 3 ans. Alors quand j'ai vu cela, j'ai valorisé ce que nous avions. Et je préfère 1 million de fois un Chavez qui a perdu du prestige, mais qui humainement est quelqu'un de bien. Alors j'ai valorisé tout ce que nous avions et maintenant je suis dans la rue pour défendre Chavez.
Tout au long des années 2003 et 2004, fort du soutien qu'il conserve parmi les populations les plus pauvres, Chavez continue ses réformes. Le président vénézuélien chiffre ses projets et s'engage sur la durée. Parmi les principaux objectifs, la lutte contre l'insécurité et la corruption. Mais malgré ses efforts et celles de son gouvernement, les progrès sont minces. Toujours au cours de l'année 2004, l'opposition, qui n'a décidément pas dit son dernier mot avec la révolution bolivarienne, joue son va-tout. Elle demande un référendum pour déstabiliser le président Chavez. Le vote a lieu. À la question « Voulez-vous révoquer Hugo Chavez de ses fonctions de chef de l'État ?», les Vénézuéliens répondent « Non » à plus de 59%. Et 2 ans plus tard, en 2006, alors candidat à sa propre succession, Hugo Chavez est largement reconduit avec plus de 63% des voix, reconduit donc à la tête du pays.
Aujourd'hui, 15 février, vous avez écrit mon destin. Mon destin politique qui est celui de ma vie. Je souhaite vous dire que je l'assumerai pleinement en mon âme et conscience. Je l'assumerai pleinement. L'impulsion pour cette révolution est donnée. Personne ne pourra l'empêcher. Nous devons maintenant donner à cette révolution la bonne direction.
La direction correcta a esta revolución.
Cette révolution et cette direction s'appellent le socialisme.
En l'espace de quelques mois, sous l'impulsion du président Chavez, le Venezuela prend un virage socialiste radical. Malgré la contestation populaire, le gouvernement décide d'imposer plusieurs mesures fortes à la symbolique politique non moins forte. D'une part, un contrôle des médias, on notera la fermeture d'une chaîne de radio-télé dont la ligne éditoriale faisait selon les chavistes le jeu de l'opposition. Ensuite, pour tenter d'aller plus vite, le gouvernement propose une série de réformes, parmi lesquelles le droit à l'expropriation sans procédure judiciaire, la création d'une milice populaire qui serait placée directement sous les ordres d'Hugo Chavez, une sorte de garde prétorienne. Et puis on nomme des responsables militaires dans la haute fonction publique et dans les entreprises d'État. Cette série de mesures est vivement dénoncée à l'international par les Vénézuéliens expatriés, tout comme par une partie de la population d'ailleurs, comme ici l'historienne Margarita López Maya.
Le projet de la démocratie participative était de fortifier la société pour contrôler l'État. Mais Chavez, dès son second mandat, nous a proposé de fortifier l'État et de faire disparaître la société. C'est le même État pétrolier que nous connaissions avant, où la société ne peut pas contrôler la corruption et l'inefficacité des élites.
Moins d'un an plus tard, en 2007, l'État vénézuélien continue sur sa lancée et récupère en échange d'indemnisation plus de 80% des installations pétrolifères du bassin de l'Orénoque, un site stratégique dont les experts estiment qu'il serait la plus grande réserve de pétrole au monde. Ainsi, plusieurs grandes compagnies, comme le géant américain du pétrole ExxonMobil, perdent tout droit de propriété et d'exploitation. Sur la scène internationale, Hugo Chavez maintient un bras de fer avec Washington. Partisan d'un monde multipolaire et d'une Amérique du Sud libérée, c'est son côté bolivar, le président vénézuélien accuse son homologue à la Maison-Blanche, George Bush, de soutenir ses opposants. Et Chavez menace les Américains de ne plus les fournir en or noir. À l'inverse, il noue des contacts étroits avec Cuba la Chine, la Russie et restaurer l'amitié durable avec son grand voisin, le Brésil. À l'issue d'un nouveau référendum en 2009, la constitution du pays est de nouveau modifiée. Chavez, président depuis plus de 11 ans, peut se présenter de nouvelle fois pour un troisième mandat. Au même moment, des rumeurs courent sur son état de santé. On le dit malade, atteint d'un cancer avancé. Dans les faits, à partir de 2011, il multiplie en effet les séjours à Cuba où le médecin personnel de Fidel Castro s'occuperait de lui. Réélu en 2012 pour un nouveau mandat de 6 ans qui devait le conduire à la présidence du pays jusqu'en 2018, Hugo Chavez meurt le 5 mars 2013 dans un hôpital de Caracas sans avoir pu prêter serment, mais après avoir choisi comme héritier un ancien chauffeur de bus proche du commandante depuis les années 90, Nicolas Maduro, toujours en poste au moment où nous parlons. Avec Hugo Chavez, une page de l'histoire vénézuélienne se tourne, un chapitre de l'histoire sud-américaine se referme, le mythe, lui, reste entier.
Respecting me long, long reign, they making plot to take down me name. I've been breaking down walls ever since I was small. They could stand up tall and strong like a wrecking ball. I would knock them down. They say that I carry too long, forgetting that the constitution is strong. Instead of respecting me long, long reign, they making plot to take down me name. When I own the Calypso Queen, no man alive or dead could man come and take the crown off me head. Them foolish and petty men, I don't worry about them. They've been trying to take me down, but to the end I retain. They used to call me small island girl. Now I travel the world. Anyway they go, they know I am Calypso Rose, queen of Calypso.
France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, Hugo Chavez et la révolution bolivarienne. Notre invité à Madrid, Franck Godichaud, bonjour.
Bonjour.
Vous m'entendez bien, parfait. Vous êtes dans les studios de la Radio Nationale Espagnole, à RNE. Docteur en sciences politiques et maître de conférences en civilisation hispano-américaine à l'Université Grenoble 3. Vous avez beaucoup travaillé sur la question des mouvements révolutionnaires en Amérique latine. Votre dernier livre, coécrit avec Antoine Faure, est intitulé « Chili actuel, gouverner, résister dans une société néolibérale ». Ce livre est paru au mois de janvier dernier aux éditions L'Harmattan. Voilà pour le Chili. Nous parlons du Venezuela. L'histoire d'Hugo Chavez et de la révolution bolivarienne est un épisode très large, hein. On a essayé d'être précis, pas forcément complet, c'est pas toujours facile. Alors, selon vous, quelles sont les mesures ou attitudes de Chavez qui décrivent le mieux cette révolution bolivarienne? S'il fallait trouver des exemples emblématiques.
Mais je pense que vous avez quand même bien rappelé, d'une part, le fait que Hugo Chavez, il a incarné, d'une certaine manière, incarné les classes populaires, ceux d'en bas, les métis, qu'il était lui-même métis, ceux qui étaient exclus jusque-là de la politique au Venezuela. Et autour de sa figure, très charismatique finalement, il a inclus à la politique, à la participation, tous ces secteurs historiquement exclus par la 4e République. Donc, si on pouvait retenir quelque chose, c'est ce processus, non, d'inclusion, de participation, qui, d'une certaine manière, s'incarne très concrètement au moment du coup d'État d'avril 2002, où los ranchos, les habitants des quartiers pauvres, descendent dans le centre de Caracas et veulent restaurer, récupérer leur président contre les putschistes.
Alors, lorsqu'on travaille sur le personnage d'Hugo Chavez, c'est toujours assez clivant, coupé en deux finalement. Il y a ceux qui voient dans le parcours de Chavez la geste héroïque de Bolivar ressuscité, d'autres part simplement d'un dictateur. Où se trouve la vérité, qui est rarement d'un côté ou de l'autre, d'ailleurs souvent entre les deux.
Oui, bah c'est vrai que en plus sur le plan médiatique, c'est aussi très polarisé, hein, quand on parle du Venezuela. Il y a parfois des clichés, des choses comme ça qui circulent. On a beaucoup avancé en termes d'analyse, hein, quand même, du processus bolivarien. Il y a plein de jeunes chercheurs qui travaillent notamment en France là-dessus. Si c'est autant polarisé dans le traitement médiatique, c'est que c'est aussi très polarisé au Venezuela lui-même. Mmh. C'est-à-dire, le processus a polarisé la société. Il y a des positions très tranchées, et c'est des positions aussi qui traversent les classes sociales, les couches sociales.
Et alors, son influence à l'étranger est importante aussi.
Ah oui, de ce point de vue-là, Chavez, il a vraiment incarné... ou tenter d'incarner le multilatéralisme, retrouver le fameux rêve de Bolivar, hein, d'une intégration latino-américaine sans les États-Unis, voire contre les États-Unis, l'anti-impérialisme, qui était un peu son discours central, face aux États-Unis, retrouver la souveraineté nationale, et avec parfois aussi des errements, hein, c'est-à-dire des alliances possibles avec Kadhafi, Poutine, Assad, au nom de l'anti-impérialisme.
Et il a influé jusque dans certains pays occidentaux, comme le nôtre. Je rappelle qu'il y a l'un des candidats à la présidentielle, on se réclamait pas de Chavez, mais avait quelquefois quelques références chavéziennes. Ça a dû lui coûter quelques voix, d'ailleurs, soit dit au passage. Mais on sent une influence très forte sur les consciences de gauche, finalement, partout dans le monde.
Ben oui, Chavez a réinstauré d'une certaine manière l'Amérique latine sur la scène internationale avec un discours de rupture, un discours de récupération d'une Amérique latine indépendante et aussi de relations sud-sud. Il faut voir ses voyages en Afrique, ses relations avec la Chine, notamment donc avec toujours cette idée de construire et de s'opposer aux puissances impérialistes.
Qu'est-ce qu'on peut dire finalement de la révolution bolivarienne de Chavez aujourd'hui? Est-ce que ça a été une réussite ou un échec? Ou est-ce que c'était plus une réussite qu'un échec? Car encore une fois, c'est difficile de trancher.
Hein. Les bilans, oui, sont difficiles à faire. Il faudrait forcément que ce soit aussi des bilans critiques. Actuellement, au Venezuela, il y a une très très grosse crise, hein, de l'expérience bolivarienne. Mais si on fait le bilan des années de Chavez, sur le plan positif, il faut quand même insister, hein, comme le reconnaît l'ONU, en termes d'alphabétisation, d'accès à la santé, de baisse de la pauvreté. Ces années de Chavez, notamment les années du pétrole cher, du pétrole à 100 dollars le baril, là, il y a eu une redistribution vers le bas, une amélioration concrète des conditions des classes populaires au Venezuela. Et surtout, j'insiste, une politisation, une nouvelle participation. En même temps, il y a tous les problèmes, hein, structuraux. Il n'y a pas une transformation structurelle, finalement. Des questions de la corruption, du népotisme, de la violence, y compris dans une ville comme Caracas. Et en toile de fond, toujours ces malditions, la maldition de l'abondance, hein, du pétrole, qui imprègne toute la société, qui fait que le modèle rentier est toujours là et pèse sur toute perspective d'émancipation.
Alors, vous parliez de participation, démocratie participative. Est-ce que le Venezuela d'Hugo Chavez était une démocratie, une dictature, une démocrature, comme on dit maintenant quand on balance entre les deux concepts?
Si on regarde en termes de, vraiment de respect des processus électoraux, de participation, il y a vraiment eu de nombreuses consultations électorales, vous l'avez rappelé, hein, au Venezuela. Chavez en a gagné, si je me rappelle bien, 18 sur 19. Donc là, il était vraiment validé, revalidé dans les urnes. Il y a eu un référendum révocatoire qu'il a gagné également. Donc la constitution bolivarienne prévoyait vraiment des espaces de consultation, de participation. Et même la Fondation Carter états-unienne a reconnu la validité de ces élections. Après, là où il y a, disons, bilan critique, c'est sur les dernières années où il y a une tension, des tentatives même autoritaires de reprendre en main le Parlement.
À partir de 2006, oui. Mais à partir de 2006, absolument.
Exactement. Des relations tendues avec même le mouvement syndical et toute la question de l'hyper-présidentialisme, du caudillo charismatique, cette relation verticale au peuple qui pose aussi des questions. Même si là aussi, il y a eu des expériences de participation avec les conseils communaux, les communes, les coopératives. Donc il y a cet aller-retour en tension, on pourrait dire.
Oui, c'est intéressant quand même parce qu'on a une synthèse entre une démocratie, on va le dire, participative à la lumière effectivement, de beaucoup de consultations électorales, voire révocatoires. Et puis il y a aussi quand même une incarnation d'un pouvoir personnel fort. C'est une synthèse étonnante aussi, ça.
C'est une synthèse étonnante, c'est un peu l'incarnation de ce qu'on appelle en Amérique latine les mouvements national populaires, comme il y a pu y avoir d'une certaine manière en Argentine avec le péronisme, ou au Mexique avec Cárdenas. Donc cette incarnation très forte dans le leader, la relation verticale au peuple, une participation mais qui se fait de manière finalement contrôlée. Et ça pose aussi la question la relation de l'État avec la société.
Franco Di Gio, on va écouter une archive ensemble. Alors c'est vrai, quand on parle de Chavez, on est souvent tenté, à tort ou à raison, de parler de Castro. On va écouter ce qu'en pense l'un de vos collègues, Michel Collomb, écrivain belge, spécialiste du Venezuela.
Les États-Unis font un blocus économique contre ce pays depuis 40 ans. Les pays occidentaux, surtout les États-Unis, ont plongé l'Amérique latine dans une situation telle où une personne sur deux n'a pas les moyens de vivre décemment. Dans cette situation-là, si le Venezuela a du pétrole et Cuba a une expertise que tout le monde admire en médecins, en soins, en éducation, etc., pourquoi ne pas faire des échanges? Où est le problème? Castro a été un pionnier dans cette lutte de libération. Maintenant, il n'est plus tout seul. Il y a Chavez, puis il y a Evo Morales. Problème, si vous voulez absolument trouver des enfants, c'est que vous allez fabriquer beaucoup d'enfants à Castro. Donc vous voyez bien que ça dépasse le problème d'une relation tellement personnelle. Avant, les relations sociales, commerciales étaient imposées par les États-Unis tout puissants. Donc c'est un système de troc qui veut dire que le commerce devient un peu équitable. C'est un mot galvaudé en Occident, mais ici il prend une réalité. On pense qu'il faut exporter la révolution parce que les gens d'un pays ne sont pas capables eux-mêmes de savoir qu'il faut changer leur pays. Ça, c'est un cliché.
Alors, Chavez et Castro, même combat, notamment contre les États-Unis, et plus si affinité, si je puis dire.
Même combat, peut-être pas tout à fait, mais effectivement, une alliance qui a été très forte durant les années de Chavez, d'échanges, pétrole contre médecins. Les médecins cubains ont une influence très positive dans l'accès aux premiers soins, par exemple à Caracas. Il y avait, et bien entendu, aussi une alliance idéologique face aux États-Unis. En même temps, très souvent, si on parlait avec des dirigeants cubains, ils avaient aussi des critiques, hein, sur le fonctionnement bureaucratique, sur la corruption à Caracas, sur l'absence de diversification économique, etc. Mais oui, il y a une alliance, disons, diplomatique, géopolitique et y compris économique, qui a beaucoup servi d'ailleurs à Cuba pour améliorer son économie. L'accès au pétrole a pris tout à fait amicaux.
Alors, vous qualifiez ces relations avec plusieurs adjectifs, mais vous n'avez pas dit personnel. Il n'y avait pas de relation étroite, personnelle entre Castro et Chavez.
Si, quand même. Si, effectivement, on voit les images d'ailleurs, hein, Hugo Chavez auprès de Fidel Castro et ensuite de son frère, avec une relation amicale très très forte.
Finalement, quels sont les pays sud-américains qui ont suivi Chavez et le modèle Chavez, puisqu'on a compris aussi la dimension continentale, hein, de cette affaire et pas seulement nationale?
Alors oui, Chavez a vraiment essayé d'impulser de nouvelles formes d'intégration régionale, toujours dans cette perspective bolivarienne justement de Simon Bolivar, avec des pays proches idéologiquement y compris, comme Rafael Correa en Équateur, comme Evo Morales en Bolivie, mais aussi des alliances d'intérêt avec le Brésil, par exemple le Brésil de Lula et de Dilma Rousseff, pour essayer de commencer à renforcer l'économie régionale et pouvoir aussi réaffirmer la puissance latino-américaine dans le concert international et notamment face à l'oncle Sam, face aux géants du Nord.
Qui étaient les adversaires d'Hugo Chavez au Venezuela, les adversaires politiques? On l'a dit, ceux qui exploitaient, enfin les pétroliers, notamment les grands propriétaires terriens, c'est ça?
Alors oui, Chavez a eu de nombreux adversaires et des adversaires très coriaces, hein, parce qu'il s'est affronté, disons, à tout un secteur on pourrait dire des classes dominantes vénézuéliennes, même si là aussi, il faut être fin dans l'analyse, il y a aussi plusieurs tentatives de rapprochement hein, de Chavez avec des grands secteurs patronaux, et les années de Chavez de croissance ça a été tout à fait bénéfique pour le secteur privé. De manière paradoxale, le secteur privé a connu une croissance durant les années de Chavez, au contraire de ce qu'on pourrait croire. Mais des adversaires extrêmement coriaces et alliés aux États-Unis qui ont encore une très mauvaise opinion du processus bolivarien, sont intervenus en permanence pour mettre des obstacles dans cette expérience bolivarienne.
Alors, Hugo Chavez est mort en 2013. On va écouter un dernier reportage réalisé par l'un de nos envoyés spéciaux, Philippe Berson, donc au moment des obsèques de Chavez à Caracas.
Ils sont environ un millier debout sur la place. Tous ou presque portent un t-shirt ou un vêtement à l'effigie d'Hugo Chavez. Certains ont un bandeau qui leur barre le front avec ce message « Chavez toujours parmi nous ». La foule est calme et silencieuse. Quelques « Viva Chavez » sont scandés ça et là, mais le cœur n'y est pas vraiment. Douglas Gutiérrez a la casquette du commandante vissée sur la tête. Il a fait 2 heures de route depuis sa lointaine banlieue pour venir dans le centre historique de Caracas. Et il retient ses larmes avant de parler.
Hoy estamos llorando la muerte.
Aujourd'hui, on pleure la disparition physique de notre leader, de notre commandante. Mais je veux vous rappeler que ses ordres restent bien présents, qu'ils restent vivants dans nos cœurs. À Chavez, je veux dire au revoir, camarade, la lutte continue.
Le gouvernement va décréter 7 jours de deuil national, les écoles et les administrations seront fermées, le pays va fonctionner au ralenti, mais Douglas a promis de revenir tous les jours sur cette place. Lui et les autres aimeraient rester ici toute la nuit, mais Caracas devient dangereuse le soir venu. Alors drapeau sous le bras, ils repartent chez eux pour faire le deuil à la maison, en famille, comme s'ils venaient de perdre un proche. Caracas, Pierre-Philippe Berson, RFI pour France Inter.
Voilà, Pierre-Philippe Berson, Franck Audichaud, c'était il y a 4 ans. Quelles traces laisse Hugo Chavez aujourd'hui au Venezuela, 4 ans après sa disparition?
Ben aujourd'hui, si on se balade dans les quartiers populaires de Caracas, par exemple, on voit vraiment la figure de Chavez dans les commerces, dans les maisons. Il est presque rentré dans la religiosité populaire. C'est une figure très, très chérie qui vraiment a incarné ces années de transformation sociale et aussi de pétrole cher. Et ce qui explique aussi d'une certaine manière l'état de la crise actuelle, même de la décomposition, on pourrait dire, que vit le Venezuela. Mais la figure de Chavez, elle est centrale dans tout le processus politique vénézuélien et pour très longtemps, à mon avis.
Alors, ce sera la dernière question. On va arriver à ce qui se passe aujourd'hui. Quelle est la situation, quels sont les ingrédients de la crise sociale que connaît le Venezuela en ce moment même, hein, au moment où nous parlons, qui semble être une crise assez sévère?
Très très sévère, avec plusieurs dizaines de morts hein, dans la rue. Le premier ingrédient, évidemment, c'est l'effondrement du cours du pétrole. C'est-à-dire, il n'y a plus cette manne pétrolière qu'on peut commencer à redistribuer. Et ça a impacté l'économie qui s'est totalement effondrée. Et c'est d'ailleurs un des bilans critiques. Hein. En 17 années de chavisme, il n'y a pas eu de transformation économique en ce sens-là. Pas de diversification économique. En même temps, il y a aussi une crise qui est politique et une tension entre le le Parlement qui est aux mains de l'opposition et le gouvernement de Nicolas Maduro. Des secteurs de l'opposition, eux, sont vraiment dans l'option insurrectionnelle, hein, clairement. Ils veulent la salida, donc la sortie, du gouvernement Maduro, y compris la sortie forcée. Et en face, on a une tentation autoritaire de la part du gouvernement Maduro de jouer le coup de force avec... on a repoussé les élections qui étaient prévues fin 2016, les élections régionales. On a repoussé le référendum révocatoire parce qu'il y a maintenant, désormais tout un secteur des classes populaires qui n'appuie plus le gouvernement, qui en ont marre des files d'attente, de la pénurie alimentaire, de l'inflation, des taux de change. Donc vraiment, il y a une décomposition qui est renforcée, y compris par la corruption, on n'a pas réussi à combattre ce fléau.
Merci infiniment, Franck Godichaud, pour tous vos éclairages. Je rappelle que vous êtes un spécialiste de l'Amérique latine. Bah, on l'a compris, il suffit de vous écouter pour le comprendre. Merci infiniment. Vous étiez à Madrid. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. Hugo Chavez, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, la fiction, elle sera consacrée au grand cinéaste polonais Andrzej Wajda.